Bonjour à la Terre sur RCF avec notre invité Éric Darrouzet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université François Rabelais à Tours en recherche IRBI. Alors IRBI, Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, et vous êtes également chargé de communication au CNRS.
Oui.
Éric Darrouzet, les beaux jours arrivent, les premières chaleurs, alors on revoit les insectes, abeilles, frelons, guêpes, bourdons. Alors on va peut-être faire un peu un bilan sur l'exposition qui s'est tenue à Tours au Muséum d'Histoire Naturelle, les insectes bâtisseurs qui s'est donc achevée cet hiver, hein, le 8 février. L'exposition continue à vivre dans d'autres lieux. Un bilan à Tours, Éric Darrouzet, bilan très positif, hein, je crois.
Mais tout à fait, un bilan très positif dans le sens où, on va dire, la fréquentation a été assez importante. Donc le public a vraiment été au rendez-vous.
Plus que prévu, c'était...
Oh, il n'y avait pas de choses prévues, mais disons par rapport à une fréquentation habituelle, il y avait à peu près le double de visiteurs. Donc les gens semblent avoir bien aimé le sujet. Et l'exposition maintenant est présentée à côté de Millau, à Micropolis.
Oui, donc là où a été tourné le film, à Microcosmos, hein,
tout
dans
à
ce
fait.
Coin-là.
Oui. Mm-hmm. C'est un centre spécialisé sur les insectes pour le grand public, tout simplement.
En Aveyron, oui.
En Aveyron. Ensuite, l'exposition va être présentée à Paris, au centre du CNRS. Et après, elle devrait partir en Belgique pour un mois et ensuite pour quelques mois en Algérie.
En Algérie. Donc, Éric Darrouzet, vous travaillez surtout sur les termites et les frelons.
Oui, les insectes sociaux.
Les insectes sociaux, alors avec la communication chimique, parlez-nous un petit peu de cet aspect à la fois écologique et chimique lié aux molécules dans l'environnement. Alors, expliquez-nous tout ça.
Si on prend l'exemple des termites, les termites sont des animaux qui n'ont pas d'yeux et qui vivent en souterrain, c'est-à-dire dans des galeries souterraines ou dans des loges souterraines, dans des loges creusées dans le bois, donc ils vivent dans le noir. Donc ils ont utilisé un mode de communication à base de molécules, c'est-à-dire de la chimie. C'est-à-dire que pour ça, ils ont des molécules à la surface du corps, tout un ensemble de produits différents, de nature lipidique, comme des graisses, si vous préférez, de manière simple. Et ils se reconnaissent par contact en analysant les différentes molécules qu'ils ont à la surface du corps. Donc ça permet, entre plusieurs colonies, de se reconnaître. C'est-à-dire si vous avez un individu qui part d'une colonie, qui arrive devant une autre colonie, qui n'est pas la sienne, il va être reconnu comme étant étranger et il sera raccompagné à l'extérieur, voire tué.
D'accord.
Et ça permet également aussi tout ce qui est reconnaissance entre castes, c'est-à-dire entre des ouvriers, des soldats, des reproducteurs.
Et en ce moment, c'est sur ce sujet que vous travaillez actuellement à l'IRBI.
Oui, je suis dans une équipe qui s'appelle ISEC, Insectes sociaux et écologie chimique.
Oui.
Donc on travaille, il y a des parties en biologie moléculaire, c'est-à-dire sur l'ADN, mais on a une partie plus communication chimique, donc essayer de comprendre un peu comment les insectes communiquent via ces molécules et comment un individu d'une colonie donnée ou d'une case donnée présente un profil chimique différent des autres.
Et donc dans votre équipe, chacun a un rôle bien précis ?
Oui, moi j'ai un collègue qui travaille plus sur l'ADN, donc ce que j'appelais en biologie moléculaire. J'ai une autre collègue qui travaille plutôt sur la phylogénie génétique, c'est-à-dire essayer de comprendre la répartition des espèces de certains insectes au niveau national ou international via leur ADN. Et moi, je suis plus spécialisé en écologie chimique et en physiologie, c'est-à-dire la régulation par des hormones de ces molécules.
Alors les termites européens vivent sous terre.
Oui. C'est-à-dire que si vous voulez voir des grosses termitières cathédrales, comme il y avait dans l'exposition, par exemple, il faut aller dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie. Dans l'hémisphère nord, on n'a pas d'aussi jolies choses. On a des termites. En France, il y a des termites.
Les termites qui consomment du bois, surtout.
Voilà. Ouais. Ils consomment tous de la cellulose.
Ouais.
Et ces termites-là sont souterrains, c'est-à-dire ils vivent sous terre ou dans le bois qu'ils consomment.
Et vous êtes toujours surpris par les termites? Vous apprenez toujours quelque chose sur les termites tous les jours
Oui. Tant qu'on travaille dessus, on se pose des questions, on essaie, via des protocoles scientifiques, de répondre à ces questions. On apprend toujours des choses.
Ouais. On va passer maintenant à l'air, dans l'air, avec le frelon asiatique, puisque vous travaillez également sur le frelon.
Alors le frelon asiatique, c'est un nouveau frelon qui est arrivé en France.
Alors qui vient d'Asie, forcément.
Qui vient de la province de Yunnan, en Chine. Mmh. Donc l'hypothèse actuelle, c'est une espèce qui aurait été introduite en France, dans le Lot-et-Garonne, via l'importation de poteries chinoises. Donc c'est tout à fait un accident, c'est pas du tout voulu. Donc l'animal est intéressant, à certains points de vue, on va dire, à d'autres pas du tout. C'est un animal qui construit des nids très intéressants, de taille importante, c'est-à-dire jusqu'à 80 cm, ah oui. Et au sommet des arbres, c'est-à-dire à plus de 40 mètres de hauteur. On n'a aucune espèce sociale en France, je m'entends en tant qu'insecte, qui fait la même chose. Donc c'est le premier à le faire en France. Le gros problème, c'est un prédateur, c'est-à-dire qu'il va chasser des insectes proies pour les consommer, pour nourrir toutes les larves de la colonie, et en l'occurrence, il chasse les abeilles, ce qui pose de gros soucis dans le sud-ouest à l'heure actuelle.
Alors ça, c'est un problème actuel très, très important dans le sud-ouest.
Ben oui, tout à fait, parce que l'animal est arrivé en 2004, comme je vous disais. Donc on va dire un spot d'introduction, enfin une zone d'introduction dans Lot-et-Garonne, et depuis, on le retrouve dans tout le grand sud-ouest. C'est-à-dire, si vous prenez la France, vous la coupez en quatre parties égales, oui. Toute la partie sud-ouest du pays contient le frelon. Et oui. Il devrait arriver ici, parce qu'il continue à s'étendre, oui. On va dire, dans les deux ans.
Alors, quelle est la différence entre le frelon asiatique et le frelon français ou européen ?
Alors, le frelon commun, oui. Son nom scientifique, c'est Vespa crabro. Oui. C'est la grosse guêpe jaune que les gens connaissent bien.
Oui, qui fait un peu peur, des fois, hein.
Oh, il n'y a pas de raison. C'est quand vous le voyez passer dans votre jardin, il ne viendra absolument pas vous embêter, donc il n'y a aucun souci. Quand il rentre dans une pièce, bon, il est rentré par erreur, donc il veut ressortir, donc il faut lui ouvrir une fenêtre et il va sortir.
Quand est-ce qu'il peut piquer ? C'est quand il est en danger ?
Voilà, c'est-à-dire que les guêpes, les frelons, certains bourdons ne sont pas dangereux, si vous voulez, en majorité. Ils peuvent être dangereux qu'à proximité du nid. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone de 5 mètres autour du nid, vous avez un animal, genre, si on prend le cas du frelon par exemple, qui s'approche de vous, il y a une ouvrière qui s'approche de vous, qui tourne autour de vous pour vous prévenir qu'il ne faut pas rester là. Si vous comprenez le message, vous partez, vous ne risquez rien. Oui. Si vous ne comprenez pas le message, bah, après elle retourne au nid, elle va recruter d'autres sœurs et qui vont venir vous attaquer.
Alors j'en reviens à...
je préfère le dire tout de suite, c'est que dans la zone des 5 mètres, c'est-à-dire au-delà de cette distance-là, en général, il n'y a pas de risque.
Alors j'en reviens au frelon asiatique, hein, qui pose un vrai souci actuellement dans le sud-ouest de la France. Alors les abeilles sont chassées donc, par le frelon asiatique, donc un gros problème pour les apiculteurs.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a certains ruchers du côté de Bordeaux, par exemple, où il y a eu un fort taux de prédation, c'est-à-dire que beaucoup d'abeilles étaient éliminées par les frelons. Alors c'est quelque chose d'intéressant, enfin, certains trouvent ça intéressant, l'apiculteur peut-être un peu moins. Si vous observez l'attaque, c'est assez extraordinaire à voir. Vous avez une ouvrière qui arrive devant la ruche, une ouvrière du frelon, je m'entends, qui arrive devant la ruche, elle se met en vol stationnaire et elle attend. Et dès que vous avez une butineuse, une abeille qui rentre à la ruche chargée de pollen, le frelon se jette sur l'abeille, la plaque au sol, la décapite, lui coupe l'abdomen et embarque le thorax pour aller nourrir les larves de sa colonie. Et vous avez un circuit comme ça, vous avez plusieurs frelons qui attaquent les uns après les autres.
On parle aussi que l'abeille est une espèce menacée, vous le pensez également en tant que spécialiste des insectes, Éric Darrouzet ?
Ah, je ne suis pas spécialiste des abeilles, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi pour en parler. Est-ce que c'est une espèce menacée ? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Il y a eu des problèmes de disparition de nombreux individus au niveau mondial. Il y avait le syndrome de disparition des abeilles aux États-Unis il y a 2-3 ans. Après, ça s'est retrouvé en Asie, ça s'est retrouvé en Europe. On a incriminé plusieurs facteurs qui pouvaient être à la base de cette disparition.
Genre le gaucho, le régent.
Voilà, c'est les pesticides, c'est déjà un fait, c'est un fait établi. Il y a des parasites, genre le varroa, des mauvaises pratiques apicoles, c'est-à-dire que l'apiculteur peut faire des erreurs de manipulation et du coup perturbe sa colonie, voire élimine énormément d'individus. Ça peut arriver. Et il peut y avoir des prédateurs, genre ce nouveau prédateur en France, qui est le frelon asiatique.
Le frelon asiatique. Et est-ce que le frelon asiatique rencontre également le frelon européen ? Est-ce qu'il y a le frelon commun ?
Si vous voulez, le souci que nous, on a en tant que scientifiques, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur l'animal. Je vous disais, il est arrivé en 2004 en France, donc c'est assez récent.
Les 5 ans.
Les premières études ont commencé en 2006 à peu près, 2006-2007. On s'est commencé à s'intéresser. Il y a très peu de communication scientifique au niveau international. Il y avait quelques articles en chinois. Mais bon, difficile à traduire quand on ne connaît pas le chinois. Donc on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il peut ressembler à d'autres frelons qu'on rencontre également, d'autres espèces qu'on rencontre en Asie. Donc on peut avoir des comparaisons. Mais on ne sait pas grand-chose sur lui. Donc là, on a initié une étude entre plusieurs laboratoires en France pour l'étudier. Alors il y a des études sur la biologie animale pour comprendre un peu sa durée de vie, le nombre d'individus que peut produire une colonie. On regarde un peu l'impact écologique que peut avoir une colonie, c'est-à-dire qu'est-ce que va chasser le frelon. On sait qu'il chasse les abeilles parce que les apiculteurs le voient. Mais on ne sait pas forcément sur d'autres espèces, entre guillemets, naturelles, c'est-à-dire sauvages, genre des bourdons, des mouches, d'autres guêpes, là on ne sait pas trop. Et on étudie également la structure des nids, l'ADN de l'animal pour essayer de le différencier, la communication chimique. J'ai eu un stagiaire qui a fini son stage sur ce sujet-là, par exemple. Et le piégeage. J'ai oublié le piégeage, c'est quand même plus important, finalement.
Éric Darrouzet, un mot sur le cycle de vie des guêpes, des frelons et des bourdons.
Alors, c'est...
Déjà,
c'est
si on peut les distinguer entre le frelon, le bourdon...
Alors, le frelon, celui qu'on peut voir pour l'instant à Tours, c'est la grosse guêpe jaune. Hein. Il fait à peu près 2-3 cm, selon si c'est la reine ou une ouvrière. Les guêpes, les gens connaissent. Et comment vous expliquez ça? C'est le frelon, beaucoup plus petit.
Oui.
Et les bourdons, c'est des animaux qui sont un peu plus sombres. Enfin, ça dépend de l'espèce.
Ça fait un bruit plus important, non, en volant, le bourdon?
Non, forcément. Bon. Disons que le bourdon, vous allez voir, il va butiner les feuilles.
Oui.
Les feuilles, pardon. Qu'est-ce que je raconte?
Les fleurs.
Il va butiner les fleurs, pardon. Oui. Les guêpes, les frelons vont plutôt consommer des fruits sur des arbres ou des fruits qui sont tombés au sol. Et ils vont chasser d'autres insectes. Ce sont des prédateurs. Eux, ils vont pas butiner les
fleurs. Le bourdon est peut-être plus sombre, hein, au niveau de la couleur.
Si, certaines espèces, oui. Bombus terrestris est sombre avec le bout de l'abdomen blanc. Mm. Mais vous avez d'autres bourdons, comme le bourdon de jardin, qui est assez jaune aussi. Ouais. Mais si vous voulez, le bourdon, il est plus poilu qu'une guêpe, qui a une genre de cire à la surface qui fait un peu brillant.
Alors, le cycle de vie, hein, des guêpes, frelons et bourdons, Éric Darrouzet, pour clore Bonjour la Terre.
Alors, on va dire une colonie commence en avril-mai, à peu près. C'est-à-dire, vous avez une reine qui va se réveiller après son long sommeil hivernal. Elle va partir dans l'environnement, chercher un endroit pour nidifier. C'est-à-dire, ça peut être en général une petite cavité souterraine. Donc là, elle va... Alors, je prends le cas de la guêpe et du bourdon. Elle va utiliser des fibres de végétaux qu'elle va prélever sur des écorces pour commencer à construire son nid, parce que le nid est fait en papier, finalement. C'est vraiment un mélange de fibres végétales malaxées avec de la salive. Donc elle commence à construire son nid, elle va construire les alvéoles, elle va faire sa première ponte dans ces alvéoles-là. Et après, en même temps, elle va chasser, aller boire, chercher les matériaux pour construire son nid. Ces œufs-là vont donner des larves, donc elle va s'occuper de ces larves-là, elle va les nourrir, jusqu'à ce qu'ils vont donner des adultes. Donc ça va être la première génération d'ouvrières. Et à partir de ce moment-là, la reine va rester dans le nid et elle ne fera que de la ponte. Et ces ouvrières-là, cette première génération, vont faire toutes les autres tâches, aller chasser, chercher des matériaux, agrandir le nid et nourrir les sœurs qu'elles vont avoir, que la reine va pondre. Donc le nid va se développer en taille, en fonction de la taille de la colonie, c'est-à-dire le nombre d'individus, jusqu'en fin août, début septembre. Là, vous allez avoir essaimage de sexués, c'est-à-dire de nouvelles reines et des mâles qui vont se croiser, se reproduire, les mâles vont mourir, et ces reines-là vont aller se cacher dans l'environnement pour passer l'hiver, cachées dans des petits trous, soit en souterrain, soit dans les souches de bois, ou sous des tas de bois, ou dans des murs. Et la colonie mère va commencer à péricliner, c'est-à-dire qu'à part, on va dire aux alentours de novembre, la reine va mourir, la plupart des ouvrières vont mourir, et elles vont disparaître. C'est-à-dire que le nid que vous allez trouver sous un toit, par exemple, en décembre ou en janvier, il est vide, il n'y a plus personne. Donc, une colonie, en fait, comme je vous disais, elle commence en avril-mai et elle finit en novembre, à peu près, en moyenne. Et ça, c'est pareil pour toutes les guêpes et les frelons. Les bourdons, ça dépend des espèces. C'est à peu près la même histoire, mais ça peut être plus court. Mm. Certaines espèces qui peuvent former une colonie qui va durer que 3-4 mois maximum.
Merci Éric Darrouzet. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université François Rabelais à Tours et donc vous travaillez à l'IRBI, hein, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Merci d'être venu au micro de RCF.
C'est moi qui vous remercie.
Pour nous avoir parlé donc de ces insectes sociaux, termites et frelons et autres abeilles, bourdons. Merci Éric Darrouzet.
Merci.